Bonjour, vous êtes sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et c'est Clap, Clap, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité cinématographique des écrans manceaux avec autour des micros Pierre Barry qui arrive en courant.
Bonjour.
Bonjour. Et Michel Lafond parce que Pierre Barry a perdu ses lunettes. Bonjour. Donc il les a retrouvées, c'est bon. Et donc cette semaine, nous vous proposons de vous parler de beaucoup de films. Cette semaine, beaucoup de films. L'amour ouf, Smile 2. Harold et le crayon magique, C'est le monde à l'envers, Miséricorde, Le léopard des neiges, qui n'est pas tout à fait une sortie nationale, c'est sorti en septembre cette affaire-là, Barbès, Little Algérie, Bambi, l'histoire d'une vie dans les bois, Croquette, le chat merveilleux, et si on a le temps, Sauvage, Macpat, le chat chanteur. Vous voyez qu'il y a beaucoup de films pour enfants, et c'est logique. Ce sont les vacances scolaires qui commencent ce soir, et donc les cinémas vont faire... vont proposer beaucoup de films pour enfants, c'est logique. Voilà, nous, on va commencer notre semaine cinématographique avec des titres que l'on entend dans le film L'amour ouf. Et on commence par le premier. Je pense que Pierre, même si c'est une chanson française, va reconnaître ça. Donc, c'est parti. Alors, quoi, ça marche pas?
Vous marchez Juliette au bord de l'eau, vos quatre ailes rouges sur le dos. Vous chantiez Alice de Lewis Carroll sur une bande magnétique un peu folle. Sur les vieux écrans de 68, vous étiez chinoise mangeuse de frites. Ferdinand Godard, vous avez un pagué de l'autre côté du miroir d'un café. Dans la tire qui mène à Hollywood, vous savez bien qu'il faut jouer des coudes. Les superstars, les petites filles de Marlène, vous coinceront Juliette dans la nuit américaine.
Eh bien, ça s'appelle « Au pays des merveilles de Juliette ». C'est sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans. Et c'est un titre que l'on entend dans le film « L'amour ouf ». L'amour ouf, c'est le moment d'en parler. C'est un film de Gilles Lellouche. En tant que réalisateur, il avait réalisé, ou plutôt co-réalisé, « Narco » en 2003, avec Guillaume Canet, Benoît Poulvord et Zabou Breitman. 2012, Les Infidèles, c'était un des sketchs du film. Et puis son premier vrai long métrage en tant que réalisateur et tout seul, c'était en 2018, Le Grand Bain, avec Guillaume Canet, Mathieu Amalric et Benoît Poulvord. Il est aussi acteur dans des films récents comme le Dali, par exemple, dans Soudain Seul, et puis, je sais pas, dans plein d'autres films, Compromat, par exemple, etc., etc. Pierre, parle-nous davantage de cet amour ouf que l'on peut voir au Pathé Quinconce, au Méga CGR et au Colisée.
Durée 2h40, avec Adèle Exarchopoulos, François Civil et Mallory Vanek. Le synopsis, Les années 80, dans le nord de la France, Jackie et Clotaire grandissent entre les bancs du lycée et les docks du port. Elle étudie, il traîne. Et puis, leurs destins se croisent, et c'est l'amour fou. La vie s'efforcera de les séparer, mais rien n'y fait. Ces deux-là sont comme les deux ventricules du même cœur. La revue de presse, elle, avec Nathalie Dupuis. Après le grand bain, Gilles Lelouch confirme qu'il est un immense directeur d'acteurs et un cinéaste de ouf. L'Obs avec Nicolas Chalère. Un spectacle généreux, si rare par chez nous, qui fait plaisir à voir. Le Figaro avec Olivier Delcroix. 6 ans après le grand bain, Gilles Lelouch revient avec un deuxième film en forme de romance épique d'une générosité inouïe, brassant tout à la fois le drame social, le film de braquage, le mélodrame, la comédie romantique et musicale incontournable. Ouest France avec Philippe Lemoine, une déclaration d'amour à l'adolescence et au cinéma. Télé 7 jours avec Julien Barcillon, coup de foudre imparable. La Croix avec Corinne Renoux-Nativelle. Après le grand bain, l'acteur et réalisateur Gilles Lelouch signe une comédie romantique matinée de polar, excessive en tout, énergie et générosité comprises. Et puis quand même, il y en a qui n'ont pas aimé. Le point, il y a beaucoup de violence, de sentiments exacerbés dans cet amour ouf, porté avec justesse par le couple Adèle Exarchopoulos et François Civil. Mais Gilles Lelouch a beau jouer sur les effets de caméra, des images très arty, un montage nerveux et une bande-son 70s, 80s, son film s'enlise et tombe dans la périphrase. Dommage. Télérama avec Samuel Douer, un mélange des genres épuisant. Les Échos avec Adrien Gombeau, saga amoureuse sur fond de guerre des gangs dans le nord de la France, le nouveau film de Gilles Lelouch étouffe sous le poids de ses ambitions. Et enfin, Les Inoccupables avec Jean-Marc Lalanne. Jusque dans sa forme, l'amour ouf bande les muscles, performe la moindre scène dans une surenchère spectaculaire et surfilme tout ce qu'il regarde, comme si chaque plan était un soulevé de poids.
Oui, alors il y a certains critiques qui ont envie de se payer Gilles Lelouch, manifestement, oui, c'est clair. Mais c'est comme Guillaume Canet, par exemple. Bon, voilà, c'est des gens qui ne plaisent pas à la critique professionnelle, du moins à une certaine critique professionnelle. L'amour ouf, c'est quoi? C'est une histoire d'amour-passion et un film de voyous violents. C'est un film aussi en deux parties bien distinctes, séparées par 10 ans d'écart. Ça se situe dans les années 80-90 dans le nord de la France. Clotaire est un adolescent, milieu ouvrier, déscolarisé, petit délinquant, gouailleur. Jackie, elle est aussi une adolescente, mais milieu petite bourgeoisie, puisque son père est commerçant, réparateur de chaînes, des choses comme ça, de télévision. Elle est élevée avec amour et compréhension par un père veuf et attentionné. À la descente du car scolaire qui l'amène dans son nouveau collège, Clotaire va la vanner et elle a du répondant et elle ne se laisse pas démonter. Et c'est quasiment le coup de foudre entre les deux. Coup de foudre alors qu'ils vivent leur histoire d'amour adolescent. Clotaire, à cause de ses mauvaises fréquentations, va tomber sur un coup foireux monté par le parrain de la région, parrain entre guillemets, hein, parce que bon, c'est le gars, le caïd de la région. Et il va prendre 10 ans de placard. Voilà, donc une décennie plus tard, Jackie a refait sa vie, s'est mariée, mais elle n'a pas pu oublier, d'ailleurs pas plus que Clotaire, quand il sort de tôle, s'il est décidé à obtenir réparation de ce qui lui est arrivé pour ne pas avoir balancé ses complices, eh bien, il reprend quand même son activité de délinquant et il cherche quand même à revoir Jackie. Et quand il y parvient, eh ben, leur histoire d'amour passionnel reprend. Donc, problématique, l'amour réussira-t-il à détourner Clotaire du mauvais chemin? Ça, vous le verrez en allant voir le film. Et surtout, il y a une petite surprise qui vous attend par rapport à la séquence de début de film. Je vous en dis pas plus. C'est un film de 2h40, eh oui, mais c'est un exploit. On ne ressent pas la durée parce que le film est rythmé, sans temps mort. Il s'y passe toujours quelque chose. Et puis de plus, les acteurs sont quand même tous excellents. Que ce soit les deux jeunes adolescents, et puis il y a toute la fine fleur des trentenaires du cinéma français, donc François Civil,
Adèle.
Adèle Exarchopoulos, Vincent Lacoste, Leclou, Karim Leclou, etc., etc. Il manque que Pierre Niney, hein, d'une certaine façon. Voilà. Et donc, il faut ajouter à cela quelques vieilles pointures, parce qu'il y a Benoît Poulvord, Alain Chabat aussi, Élodie Bouchez. Et la réalisation. Alors, parlons-en de la réalisation, elle est aussi de qualité, avec quand même pas mal d'idées originales, de mise en scène. On a affaire quand même à un très bon film, et d'ailleurs, ce film progresse même en qualité au fur et à mesure qu'il se développe. Il se développe en qualité et même en intérêt. Voilà, donc, un film que je recommande, avec même en arrière-plan une analyse sociale bienvenue sur la crise de la chirurgie dans le nord de la France à l'époque. Donc, c'est un mélange de genres, absolument, entre histoire romantique exacerbée, polar violent et même fresque sociale. Moi, je recommande, alors que je n'étais pas absolument convaincu au départ, hein, 2h40, je me disais, ça va être très très long. Ben, notamment à cause de la durée, donc je n'étais pas hyper convaincu. Et eh bien, sur ce plan-là, ça passe très bien. Et c'est un film que je recommande vraiment chaudement. Je sais que Pierre, il s'est laissé rebuter par la longueur.
Oui,
et
ça,
il a eu bien tort parce qu'il est allé voir une daube à la place.
Tant pis pour lui. On va voir ça tout à l'heure.
Voilà. Alors, on passe maintenant à Smile 2. Smile 2, c'est aussi proposé par le Méga CGR, le Pâté Quinconce, le Colisée. Et dans les trois salles, eh bien, il y a de temps en temps, une fois par jour en général, une séance en VO. Smile 2, c'est un film américain, son réalisateur, rappelle-moi qui c'est, parce que
Parker Finn,
réalisateur, scénariste, producteur américain, et c'est son deuxième long-métrage, puisqu'il avait réalisé le premier Smile, ça s'appelle Smile 2, donc c'est la suite, donc c'était en 2022, auparavant il avait réalisé un court-métrage. Pierre, dis-nous en plus sur ce Smile 2.
Durée 2h12, avertissement, ce film est interdit au moins de 16 ans. Ah oui, quand même.
Ah oui, ça se justifie. Hein.
Le synopsis. À l'aube d'une nouvelle tournée mondiale, la star de la pop Sky Riley se met à vivre des événements aussi terrifiants qu'inexplicables. Submergée par la pression de la célébrité et devant un quotidien qui bascule de plus en plus dans l'horreur, Sky est forcée de se confronter à son passé obscur pour tenter de reprendre le contrôle de sa vie avant qu'il ne soit trop tard. La revue de presse, écran large avec Judith Beauvallet, sans rien inventer et en reprenant même à la lettre le déroulé du premier film, Smile 2 réussit à frapper fort grâce à une mise en scène aux petits oignons et à son contexte de star system qui décuple à merveille les enjeux de son prédécesseur. Un vrai plaisir horrifique. Le Parisien avec Michel Valentin. Le concept reste le même, une malédiction qui se transmet à des innocents et les pousse à une fin tragique, mais l'intrigue s'avère plus ambitieuse et mieux traitée, se déroulant cette fois dans le milieu de la pop. Télérama avec Augustin Pietron Locatelli. Smile 2 plaît justement dans ses nombreuses scènes suspendues qui paraissent mettre l'horreur de côté. Seulement pour mieux y revenir en trombe, le jump scare reste son principal moteur d'effroi. Le film joue avec le public, trop parfois, tant il semble anticiper les réactions des spectateurs, et n'hésite pas à produire à l'écran des hallucinations d'un mauvais goût ravageur. Les Inrecuptibles avec Léo Moser qui lui n'a pas aimé, trop conscient de ses effets, Smile 2 peine à semer l'effroi, autrement qu'en enquillant les jumpscares faciles, et chaque séquence horrifique devient paradoxalement, tristement prévisible. Tu peux m'éclairer sur jumpscare ?
Ah, c'est quand on sursaute d'effroi.
Ah, d'accord. Première, enfin, avec Sylvestre Picard. La suite de Smile est surtout portée par la performance investie de Naomi Scott en Dark Taylor Swift.
Voilà, donc ça s'appelle Smile 2, c'est proposé au Méga CGR, au Pâté Quinconce, au Colisée, dans les trois cinémas VF, mais aussi il y a des VO pratiquement chaque jour. Ah, il faut essayer de trouver la bonne séance. Donc c'est la suite de Smile, un film qui avait connu un succès inattendu par rapport à son budget initial. Et le film en reprend le principe de base des personnes affectées par une entité maléfique qui en quelques jours va les pousser au suicide, le temps qu'ils transmettent la malédiction à une autre personne. C'est ça, Smile. Voilà, il s'appelle Smile parce que les personnes ont un sourire forcé quand elles transmettent cette malédiction. Ici, c'est l'histoire donc de Sky Riley. Sky Riley, c'est une star de la pop façon Taylor Swift, ou plus près de chez nous, Mylène Farmer.
Mm-hmm.
Plus jeune quand même. Après un an de mise en pause de sa carrière à cause de l'accident de voiture où son compagnon est mort, elle va remonter sur scène pour une giga tournée à travers les États-Unis. Mais un soir, alors qu'elle se rend chez son dealer qui lui fournit des calmants puissants pour ses douleurs, douleur de dos suite à son accident, eh bien, celui-ci se suicide de façon extrêmement étrange, je ne dis pas comment, devant elle, après avoir arboré un étrange et inquiétant sourire. Voilà, donc c'est comme ça. Dès lors, Riley, en proie à des cauchemars et des hallucinations récurrentes de plus en plus puissantes, va plonger dans un délire inexplicable affectant tous ceux qu'elle côtoie. Voilà, ça c'est l'histoire. La réalisation, réalisation ultra efficace. Alors, il y a certaines scènes insoutenables pour Pierre, quelques séquences gore qui sont vraiment d'anthologie.
Voilà.
Ah oui, absolument. Une tension permanente avec son lot de jumpscares, donc de trucs qui sont faits pour faire sursauter le spectateur. Un délire visuel étonnant. Et puis surtout, une actrice, je ne connaissais pas, Naomi Scott, qui est impressionnante, notamment dans ses séquences de pétage de plomb. Elle en a plusieurs, où elle est vraiment impressionnante. Bref, il y a un vrai savoir-faire dans la mise en scène. Alors évidemment, il faut abandonner toute volonté d'explication rationnelle à cette histoire, mais le film est une vraie réussite qui devrait satisfaire tous les amateurs de films d'horreur. Alors oui, c'est trop long, hein, 2h12 pour un film de genre, mais on ne s'y ennuie pas, on ne s'y ennuie pas parce que c'est quand même très bien fichu. Et puis, il y a aussi cette évocation intéressante de ce qu'est la vie d'une pop star, ses excès personnels, son exploitation par son entourage, la pression permanente qui pèse sur ses épaules, son égocentrisme. Et à ce titre, eh bien, le film se démarque du tout venant de ce genre de production parce qu'il y a quand même un petit fond. Il ne s'agit pas simplement de donner leur dose d'horreur à des spectateurs friands de la chose. Il y a quand même quelque chose, un fond, voilà. C'est vraiment efficace, ça témoigne d'une vraie folie. Alors, à noter aussi qu'il y a une longue séquence de pré-générique qui est sans vrai rapport avec le reste de l'histoire, mais qui est censée enchaîner avec le film précédent, puisqu'il y a marqué 6 jours plus tard. Mmh. Mais il fallait s'en souvenir des séquences d'avant, et ce n'était pas mon cas, franchement. Voilà, donc ça s'appelle Smile 2, et moi j'ai bien aimé ce film d'horreur, alors que je suis de plus en plus réticent par rapport au film d'horreur. Celui-là est quand même très très bien filmé, très très bien fichu, et puis l'actrice, elle est quand même assez extraordinaire. Alors j'ai vu le film en VO, hein, donc je ne sais pas si ça donne en VF, j'ai des doutes sur la qualité de la doublure de la voix de Naomi Scott en VF. Voilà, Smile 2, Colisée, Méga CGR, Pâté Quinconce, avec, donc je répète, de la VO dans chacune de ces salles. Harold et le crayon magique, on commence notre semaine pour les enfants, enfin de film pour les enfants. Harold et le crayon magique, ça dure 1h29, c'est réalisé par Carlos Saldana, c'est un réalisateur, producteur d'origine brésilienne. Il a à son actif des films qui vous ont marqué dans l'animation. C'est lui qui est à l'origine de la saga L'Âge de Glace. Mm-hmm. 2002, L'Âge de Glace, co-réalisé avec Chris Wedge. 2005, il a réalisé, ou plutôt co-réalisé avec Chris Wedge, Robot. 2006, L'Âge de Glace 2. 2009, L'Âge de Glace 3, Le Temps des Dinosaures. Cette fois-ci, c'est pas co-réalisé avec Chris Wedge, mais avec Mike Furmayer. 2011, Rio, dessin animé qui se passait au Brésil, comme son nom l'indique. 2014, Rio 2. Et 2017, Ferdinand. C'était des dessins animés, tout ça. Harold et le crayon magique, c'est un mélange de scènes réalistes et d'animation. 1h29, proposé uniquement par le méga CGR. Harold and the Purple Crayon, c'est le titre original. Là, on a traduit exactement. Alors, c'est avec Zachary Levi. Zachary Levi, c'est celui qui joue dans Shazam, je crois bien. Et Zoé Deschanel. Tiens, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Zoé Deschanel. Quand il est un personnage de son livre, le téméraire Harold peut donner vie à tout ce qu'il souhaite d'un simple trait de son crayon violet magique. Une fois adulte, Harold décide de se dessiner hors de son livre et de se projeter dans le monde réel, où il découvre qu'il a tant à apprendre sur la vie et notre monde. De plus, son fidèle crayon violet pourrait déclencher des situations bien plus cocasses qu'il ne l'aurait imaginé. Lorsque son crayon magique et les pouvoirs illimités qu'il contient tombent entre de mauvaises mains, il faudra toute la créativité d'Harold et de ses amis pour sauver à la fois son monde et le monde réel. Alors, quelques critiques quand même sur Harold et le crayon magique. Renaud Baronian, le Parisien, on s'amuse des rebondissements en cascade, et notamment de la séquence dans un magasin de jouets ou de la scène de combat où les protagonistes griffonnent leurs armes et leurs boucliers en temps réel. On regrette juste que le personnage d'Harold, enfant dans un corps d'adulte, soit aussi bené. Le journal du dimanche, une comédie familiale pleine de fantaisie, de drôlerie, de candeur et de poésie. L'électron libre Zachary Levi a vraiment un visage élastique de cartoon comme Jim Carrey. Et Caroline Bess dans Télérama, il n'en résulte hélas que des gags éculés, au mieux prévisibles et au pire épais comme le trait de crayon du personnage. Bon, évidemment, nous ne sommes pas allés voir Harold et le crayon magique, mais que cela ne vous empêche pas d'y aller et de traîner votre progéniture au Méga CGR qui est en travaux, ça va vous faire tout drôle parce qu'ils sont de rénovation, Mais à ce gérer, il y en a pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Allez, petite pause musicale, on passe toujours un titre du film L'Amour Ouf. C'est The Cure, dont il est question dans le film parce que la jeune héroïne Jackie est fan du groupe et donc elle écoute Cure en boucle. Et là, on l'écoute sur Radio Alpa. Ça s'appelle A Forest, ce titre. Forest, un titre que l'on entend dans le film L'Amour Ouf, c'est le monde à l'envers, c'est le titre du film dont nous allons parler maintenant, proposé au Méga CGR et au Pathé Quingon. C'est un film de Nicolas Vanier, réalisateur, scénariste, acteur, directeur de la photo en 1962. Il a commencé par le documentaire, on va citer en 93 Au Nord de l'Hiver, mais surtout en 95 L'Enfant des Neiges, 99 L'Odyssée Blanche, ça c'est un documentaire je crois pour la télévision, 2003 Le Dernier Trappeur, alors c'est entre la fiction et le documentaire, 2006 L'Odyssée Sibérienne, 2009 Loup, et 2013 Il passe à la fiction, Belle et Sébastien avec Cheikh Icario, retour en 2014 avec L'Odyssée Sauvage documentaire, 2017 L'École Buissonnière avec François Cluzet, Eric Elmosnino, 2019 Donne-moi des ailes avec Jean-Paul Rouve et Mélanie Douté, 2020 Poli, François Cluzet, Julie Gayet, 2022, Champagne, un film choral avec Elsa Zilberstein, François-Xavier de Maison, Stéphane de Grotte, etc. C'est le monde à l'envers, ça dure 1h54. C'est avec Michael Youn, Eric Elmosnino, Barbara Schulz, Valérie Bonneton. C'est la crise, tout s'arrête, plus d'eau, plus d'électricité, plus de réseau. Stanislas, homme d'affaires parisien, perd tout, y compris sa fortune. Lui qui déteste la campagne est contraint de partir se réfugier avec sa femme et son fils dans une des exploitations agricoles qu'il avait acquises dans un but spéculatif. Mais à son arrivée, il se retrouve face à Patrick et sa famille, agriculteurs exploitant des lieux qui n'ont pas l'intention de quitter la ferme. Dans cette atmosphère chaotique où tout est inversé, nos deux familles que tout oppose, parviendront-elles à cohabiter pour survivre et peut-être reconstruire ensemble un nouveau monde ? Philippe Lemoine dans Ouest France, une fable pas si irréelle sur la folie du monde et l'urgence de changer nos modes de vie. Pas si irréelle, enfin, pas, passons. Le point, la réaction du point, c'est plein de bons sentiments, plan-plan et sans surprise, on sourit un peu. Samuel Douert, Télérama, après les 20 premières minutes plutôt réussies sur l'apocalypse en milieu urbain, cette fable dystopique et néanmoins comique, imaginée par le réalisateur écologiste Nicolas Vanier, s'enlise dans un retour à la terre poussif et bourré de clichés. Thierry Chaise en première, l'ensemble aurait mérité moins de manichéisme, plus d'ambiguïté et une direction d'acteur qui ne pousse pas au sur-régime permanent pour que le message qu'entend délivrer Vanier passe. C'est le monde à l'envers, proposé au Méga CGR et au Pâté Quinconce. C'est une... Alors c'est basé sur l'hypothèse que... Que deviendrions-nous, je l'ai dit, si du jour au lendemain, Internet s'arrêtait, si on ne produisait plus d'électricité ou de pétrole. C'est donc une parabole écolo prônant la décroissance et le retour à la Terre dans le droit fil de la philosophie de Pierre Rabhi. Cette comédie dramatique est pour moi d'une confondante naïveté, voire niaiserie. Donc Stanislas, c'est un trader, c'est Michael Youn, égoïste, vivant à 100 à l'heure, jusqu'au jour où le monde entier connaît une gigantesque panne électrique. Plus rien désormais ne fonctionne, ni ordinateur, ni télé, ni véhicule. Bref, le monde s'effondre et Stanislas se trouve ruiné. Alors, eh bien, lui et sa compagne, et leur fils d'ailleurs, décident de partir à la campagne, dans la ferme qu'ils viennent d'acheter, pour des raisons spéculatives, on l'a dit dans le synopsis. Mais à leur arrivée, eh bien, Patrick, l'ancien propriétaire et sa famille ne sont pas décidés à se laisser éjecter comme ça. Alors, si les épouses, pleines de bon sens, arrivent très vite à s'entendre et faire preuve de solidarité, les deux hommes, eux, ben, ils sont comme chien et chat. Mais, face aux pénuries de toutes sortes, tous les deux vont être bien obligés de s'entraider et faire preuve, eux aussi, de solidarité. C'est un film qui critique notre société d'hyperconsommation. C'est un film qui vante la frugalité et le respect de la nature. Oui, alors donc, c'est un éloge, un très long éloge de la sobriété heureuse, de notre monde plus écologique, plus en prise avec la nature. Alors le film ne fait pas dans la nuance, hein. Franchement, il est anti-progrès, totalement utopique avant de devenir cucu. On ne saura pas grand-chose, même pas l'interprétation, avec pourtant quand même un casting de qualité, je vous l'ai dit au début. Il y a même les débuts de Yannick Noah, en babacool, écolo, cucu, sympa. Bon, peut-être on pourra sauver de belles images de la nature, ça Nicolas Vanier sait faire. Cette dénonciation de notre système fait quand même l'impasse sur beaucoup de problèmes, en se focalisant c'est quand même sur un petit groupe de personnes, mais quid de la majorité de la population ? Quid de la majorité de la population qui, bien évidemment, ne pourrait pas adopter ce mode de vie agreste, reste quand même... qu'il pose la question du superflu qui envahit nos vies. Alors Pierre ?
Alors, nous sommes à la mi-octobre, mais je pense pouvoir déjà dire que c'est le film le plus nul de l'année. En tout cas, parmi ceux que j'ai pu voir depuis janvier. Les dialogues sont consternants, surtout au début, dans la partie parisienne, où le vocabulaire est tel que je ne comprenais rien.
Ah, c'est fait exprès ? C'est le vocabulaire des traders, ça.
Oui, mais c'est un peu comme dans les chansons d'Aya Nakamura. Oui. Je comprends rien non plus. Michael Youn est égal à lui-même, c'est-à-dire qu'il gueule beaucoup, plus souvent qu'il ne parle. D'ailleurs, on s'en gueule beaucoup dans ce film. Beaucoup trop, ça devient lassant. Et à part ça, on fait une plongée dans la préhistoire de l'agriculture avec un cheval qui remplace le tracteur, la faux qui remplace la moissonneuse-batteuse. Bref, un mauvais film sur la catastrophe climatique. Et en plus, ça dure 2 heures ou presque. Eh bien, j'ai tenu jusqu'au bout quand même. Je ne sais pas comment j'ai fait.
Et dire qu'il n'a pas voulu aller voir L'amour ouf.
Ah oui, oui, alors là...
C'est incroyable, ça. Bon, alors, vous avez compris qu'on n'a pas aimé C'est le monde à l'envers.
Bah non.
Miséricorde, c'est pas ce que nous disons, c'est le titre d'un film. Miséricorde, c'est un film qui est proposé aux cinéastes, avec 2 séances par jour. C'est un film d'Alain Guiraudy. Alain Guiraudy, acteur, réalisateur, scénariste, né en 1964, qui a fait des courts-métrages, des moyens-métrages. En 2000, son premier moyen métrage avait fait parler, ça s'appelait Ce vieux rêve qui bouge. Et puis ensuite, on va citer les titres des films d'Alain Guiraudy. 2000, Du soleil pour les gueux. 2003, Pas de repos pour les braves. 2005, Voici venu le temps. 2007, Le roi de l'évasion avec Afsia Herzi. 2012, L'inconnu du lac. Ça, c'est le film qui l'a vraiment fait connaître au grand public avec Pierre Deladonchamp, Patrick Dassounsao. 2016, Rester vertical avec Damien Bonnard. Un des premiers films de Damien Bonnard. India Air. Et 2020, Viens, je t'emmène avec Jean-Charles Cliché et Noémie Lvovsky. Pierre.
Durée 1h43 avec Félix Kizil, Catherine Fraud et Jean-Baptiste Durand. Le synopsis, Jérémy revient à Saint-Martial pour l'enterrement de son ancien patron boulanger. Il s'installe quelques jours chez Martine, sa veuve, mais entre une disparition mystérieuse, un voisin menaçant et un abbé aux intentions étranges, son court séjour au village prend une tournure inattendue. La revue de presse, Le Monde. Alain Guiraudy opère ici une greffe inouïe entre la tragédie et le burlesque, entre la gravité du scénario criminel et la banalité des corps qui l'incarnent, entre le poids de la culpabilité et la trivialité des élans quotidiens. Elle, avec Françoise Delbecq, un polar drôle et incisif. L'Obs, avec Xavier Le Herpeur. Le plaisir pris par Guiraudy à orchestrer ce thriller érotisé se ressent dans sa mise en scène, à la fois escarpée et voluptueuse. Le journal du dimanche, Alain Guiraudy est un réalisateur à part qui surprend à chaque film tout en restant fidèle à son cinéma, comme avec ce vrai faux polar rural matiné de fables philosophiques. Les Échos avec Olivier De Bruyne, joyeusement inquiétant. Libération avec Laura Tulier, subvertissant sans avoir l'air d'y toucher. Bon nombre de scènes archétypales du cinéma français, le dîner, l'interrogatoire. Guiraudy annonce sans grande pompe qu'un autre septième art est possible. Il est fait dans un geste tout à fait tenu et décontracté, sourire aux lèvres, le film est très drôle, et angoisse latente au creux du ventre. Première avec Thomas Borez. Miséricorde est une farce spirituelle autant qu'un thriller psychologique où le surnaturel est d'autant plus fou qu'il se love dans un réalisme inquiétant, un peu comme si Chabrol était revenu déguisé en Buñuel, merveilleux. Paris Match avec Yannick Velli, Alain Guiraudy prend son temps pour exposer la situation, filme les paysages de l'Ardèche comme le Grand Ouest américain et signe une tragicomédie truculente avec toujours un amour immodéré pour ses personnages. Et enfin, le seul qui n'a pas aimé, c'est Éric Neuhoff pour Le Figaro. Le cinéaste Alain Guiraudy mélange les genres sans convaincre. Dans ce thriller villageois filmé en Aveyron, il réussit même à éteindre Catherine Fraud.
Oui, alors donc Miséricorde s'est proposé au cinéaste, 2 séances par jour. C'est une sorte de thriller rural que j'aurais davantage apprécié avec un autre choix de mise en scène, parce que là, la lenteur assumée du film en devient exaspérante, finit par susciter l'ennui et se retourner contre le scénario lui-même. Donc l'histoire, c'est Jérémy. Jérémy revient dans son village assister aux obsèques de celui auprès de qui il a fait son apprentissage de boulanger et qu'il appréciait beaucoup. Il décide d'y rester quelques jours, hébergé par la veuve de celui-ci, c'est-à-dire de celui qui est décédé. Mais très vite, la tension monte entre Jérémy et le fils de cette femme, et aussi un ami d'enfance de Jérémy, sous le regard du curé du village, un type assez intrigant. Voilà, c'est un film avec un meurtre, et surtout beaucoup de non-dits, et de tensions sexuelles latentes, permanentes, et pas homosexuelles, où les personnages, le personnage de Jérémy se trouve pris d'une certaine façon dans une sorte de piège dans lequel il va se débattre sans parvenir d'ailleurs à s'en dépêtrer complètement. Alors le scénario est solidement construit, je l'ai dit, le scénario il est inattaquable, il est bien, il finit par faire preuve d'une certaine ironie noire avec ses personnages ambigus. Donc le scénario, je n'ai pas de critique négative à son égard, je trouve même plutôt bien fichu, mais le film est particulièrement atone à l'image de tous ses interprètes, y compris Catherine Fraud, qu'on a connue quand même plus tonique. Dommage donc, je répète, parce que réalisé par quelqu'un qui aurait fait d'autres choix, comme par exemple François Ozon, hein, qu'on a vu récemment avec Quand vient l'automne, ben, il y avait de quoi faire, un film vraiment intéressant, en tout cas davantage, un film sur l'ambivalence des sentiments humains, amour-haine, sur le désir aussi. Là, tel quel, eh ben, moi je me suis franchement ennuyé, par ce refus de faire avancer l'histoire plus vite. Et pourtant, le film n'est pas si long que ça, il fait 1h40 et quelques. Voilà, ça s'appelle Miséricorde, c'est proposé par le cinéma, les cinéastes. Tout comme Le Léopard des Neiges. Le Léopard des Neiges, c'est un film qui est sorti en septembre et qui apparaît au cinéaste cette semaine. C'est un film qui est proposé avec une séance par jour, et encore pas tous les jours, pas dimanche et pas lundi. C'est un film d'un réalisateur chinois, Pema Tseden, qui est un réalisateur qui est décédé il y a peu de temps. Il n'est pas si vieux que ça, il est décédé à l'âge de 53 ans. Il avait à son actif des films comme Le Silence des Pierres Sacrées, Tarlo, le berger tibétain, Jinpan, conte tibétain, Balloon, tous ces films ont été proposés en général par les cinéastes et je ne crois pas les avoir vus. Le Léopard des Neiges, ça dure 1h49 dans une province déserte du Tibet. Un Léopard des Neiges s'introduit de nuit dans un enclos et tue 9 moutons. Ivre de sang, il s'y endort et se retrouve prisonnier au matin. Une équipe de télévision arrive sur les lieux alors que le berger, fou de colère, promet de tuer l'animal si l'État refuse de lui accorder une compensation financière. Son frère, un jeune lama qui semble communiquer de manière subliminale avec l'animal, veut le sauver à tout prix, tout comme deux policiers qui tentent de raisonner le berger. Vincent Ostria dans L'Humanité, un geste à la fois onirique, plutôt une geste à la fois onirique et humaine, qui plaide avec une certaine élégance pour la préservation de l'environnement et des traditions tibétaines. Isabelle Danel dans L'Obs, naviguant entre fables et documentaires sur cette espèce protégée qu'est le Léopard des Neiges, le film offre quelques échanges drôlatiques et de belles images. Mathieu Macheret dans Le Monde, Pema Tseden explore ce contentieux homme-animal par une bascule constante entre blocs de naturalisme et d'onirisme. Au conflit à chaud qui anime tout ce petit monde succèdent des percées subjectives dans la mémoire du léopard animé numériquement. Ce qu'installe alors Pema Tseden, c'est une porosité des règnes, un partage de conscience judicieux entre l'homme et l'animal. Camille Nevers dans Libération, Le Léopard des Neiges est inégal, tenu et inspiré, à d'autres moments débraillé. Mais ce balai des points de vue, certaines sorties et entrées de plans surprenantes, un réalisme magique des interactions animales et humaines, les effets spéciaux greffés au décor réel, valent la vue imprenable. Et enfin, Johanna Blend dans Télérama. 2 ans après avoir réalisé Balloon, qui traitait de la politique de l'enfant unique, le regretté Pema Tseden, où il est décédé en 2023, ancrait de nouveau sa fiction au cœur des plateaux tibétains et signe un long métrage à l'esthétique léchée, proche du conte. Le léopard, créé en effets spéciaux numériques, est également réussi. Toutefois, la dimension didactique du film, qui va jusqu'à des extraits de documentaires de la BBC et plusieurs longueurs, gâche un peu le plaisir. Voilà, c'est un film proposé par le cinéma, les cinéastes, avec 2 séances par jour. Une séance par jour. Allez, une petite pause musicale. Billy Idol, Eyes Without a Face.
Ah, je connais.
Tu connais, hein ?
Années 80.
Et oui, donc c'est un titre que l'on entend dans le film L'Amour Ouf sur Radio Alpa. Ça, c'est point 3 FM. Billy Idol.
Thank you. eyes without a face. Got no human grace. Your eyes without a face.
Eyes Without a Face, Billy Idol, et c'est un titre que l'on entend dans le film L'Amour Ouf. Barbès Little Algérie. Barbès Little Algérie, c'est un film qui est proposé au Colisée et au Pâté Quincon. C'est un premier film d'Hassan Guérard, acteur, réalisateur, scénariste. C'est son premier long métrage. Et Hassan Guérard est connu comme étant un attaché de presse et paraît-il très célèbre dans le milieu du cinéma. Allez, Pierre, parle-nous donc de Barbès Little Algérie.
Durée 1h33 avec Sofiane Zermani, Khalil Garbia et Khaled Benaïssa. Le synopsis, Malek, la quarantaine, célibataire, vient d'emménager à Montmartre et accueille bientôt chez lui son neveu Riyad, fraîchement arrivé d'Algérie. Ensemble, ils découvrent Barbès, le quartier de la communauté algérienne, très vivant, malgré la crise sanitaire en cours. Ses rencontres avec les figures locales vont permettre à Malek de retrouver une part de lui qu'il avait enfouie, de renouer avec ses origines et de commencer à faire le deuil de ses disparus. La revue de presse, Elle, avec Françoise Delbecq, un film tendre et réjouissant. L'Humanité, avec Michael Mélinard, vivifiant et captivant. L'Obs, avec Xavier Le Herpeur, un très beau premier film. Le Figaro, avec Éric Neuhoff, avec ce portrait pétillant d'un coin de Paris, Hassan Guérard signe son premier long-métrage, un coup d'essai en forme de coup de maître. Le Journal du Dimanche, ce grand petit film ne manque pas de cœur, on lui donne le nôtre. Les Échos avec Olivier Debrune, un premier film convaincant. Télé 7 jours avec Isabelle Magnier, on se régale devant la vivacité des dialogues. Télérama avec Guillemette Odissino, chronique souvent drôlatique d'un quartier avec ses petites magouilles, ses violences, son entraîne et sa gouaille chaleureuse. Le film est aussi une réflexion profonde sur la maturité et l'espace qu'on se choisit pour devenir un homme meilleur, réconcilié avec son passé, ouvert sur l'avenir. Le Point. Dans cette balade en roue libre, entre drame et comédie, il est question de fraternité, de racines, de deuil, de pardon et de la place de la famille dans un quartier imprévisible où la violence s'invite avec la drogue. Sans être sombre, le constat a le goût doux amer d'une amende. Et enfin Libération avec Clément Colliot, un premier long métrage qui, malgré tout, peine à traduire sa sincérité en une œuvre profondément singulière.
Barbès Little Algérie, proposé au Colisée et au Pâté Quinconce. On est durant le confinement, on se rend compte qu'il n'a pas l'air d'être très très respecté par ailleurs à Barbès. C'est l'histoire sous forme de chronique du quotidien de la vie de Malek. Malek, c'est un jeune informaticien, enfin jeune, il a une trentaine, quarantaine d'années, franco-algérien qui accueille dans son appartement de Montmartre. Alors Montmartre, c'est juste au-dessus de Barbès. Hein. Il accueille Riyad, son jeune neveu, débarqué du bled quelques jours avant que le confinement ait été déclaré. Tous deux découvrent le quartier de Barbès, véritable petite Algérie, Little Algérie du titre, avec sa grande diversité de personnages, certains bienveillants, solidaires, gouailleurs, d'autres plus inquiétants, magouilleurs, trafiquants, violents. Pour Malek, c'est aussi l'occasion de retrouver ses racines au contact de son neveu, de se forcer à se remémorer un passé marqué par un traumatisme familial. C'est un film sans aucun doute sincère, marqué par de nombreuses ruptures de ton, un film plein d'humanité, sans doute en partie autobiographique, qui évoque les origines, les racines, qui multiplie les petites notations qui font vrai, qui intéressera sans doute la communauté algérienne, mais qui ne m'a pas réellement passionné, parce que moi-même, je ne me suis pas vraiment senti concerné par cette histoire. Bon, je pense que ça propose une vision de Barbès un petit peu idéalisée, pour y être passé quelques fois à Barbès, dans mes promenades parisiennes. Bon, enfin bref, voilà. Barbès, Little Algérie, c'est proposé donc au Colisée et au Pâté Quinconce. Un Bambi, l'histoire d'une vie dans les bois. Alors cette fois-ci, on part au Colisée, à nouveau, et je crois bien au cinéaste. Alors au cinéaste, je crois que ça sera qu'à partir de samedi surtout, hein, parce que c'est à partir de dimanche.
Ben non, je l'ai vu.
Dimanche. Oui, mais bah, depuis, il n'y en a pas eu.
Ah d'accord.
Jeudi, vendredi, samedi, il n'y en avait pas. Enfin, il n'y en a pas. C'est surtout à partir de dimanche qu'il va y en avoir. C'est logique, c'est les vacances. Bambi, c'est un film... Bambi, l'histoire d'une vie dans les bois, le titre exact. Un film de Michel Fessler. Michel Fessler, c'est un réalisateur, scénariste, dialoguiste. Son premier long métrage. C'est recommandé à partir de 6 ans. Ça dure 1h17. C'est adapté du livre Bambi, l'histoire d'une vie dans les bois, de Félix Salten. Le film raconte les aventures d'un jeune faon entouré de sa mère, des animaux de la forêt, son ami le corbeau, le lapin, le raton laveur. Il découvre le monde des arbres et leurs secrets. Chaque jour, sa mère l'éduque pour qu'il puisse grandir avec force. Mais l'automne arrivé, Bambi s'aventure en terrain découvert lorsque des chasseurs le séparent de sa mère à tout jamais. Dès lors, le jeune faon doit apprendre à vivre seul. Heureusement, il retrouve Faline, son ami d'enfance, puis un grand et majestueux cerf qui ne tente que son père. Va retrouver Bambi et l'aider à grandir. Ce dernier va alors prendre son destin en main. Xavier Lerper dans l'Obs a apprécié. Le réalisateur insuffle à son film un rythme délicat mais jamais amorphe. L'autre atout, Mylène Farmer, grande fan de Bambi, qui enveloppe cette fable initiatique de sa voix à la tessiture posée, complice et réconfortante. Le Monde, il est heureux de voir un film pour enfants faire aujourd'hui le pari d'une expérience de cinéma très simple, qui aura aussi pour les adultes quelque chose d'apaisant. Le Parisien Renaud Barognan, le côté réaliste d'une vraie forêt, cadre à ses monocordes, lasse rapidement. Certes, Bambi rencontre beaucoup d'animaux au cours du récit, mais les rebondissements ainsi filmés s'avèrent moindres. Et il manque la variété féerique des images animées. Rien à dire en revanche sur la voix de Mylène Farmer, qui joue impeccablement la narratrice de cette intrigue. Le journal du dimanche, des images sont belles et attendrissantes, mais il ne se passe pas grand-chose. Et la mise en scène à distance amoindrit l'émotion. Dommage quand on pense au traumatisme d'enfance provoqué par le classique Disney indétrônable. Et Marie Soulion de Télérama, le résultat joli mais un peu fade, porte par ailleurs en son cœur une contradiction irrésolue qui rappelle sans cesse que le danger c'est l'homme, mais le fait avec des animaux sauvages nés en captivité. Pierre est allé voir Bambi, l'histoire d'une vie dans les bois.
Bah oui, ça m'arrive de retomber en enfance.
Eh oui, je vois.
Un tout petit peu d'histoire. Bambi est à l'origine un dessin animé issu des studios Walt Disney, donc sorti en 1942, donc ça date quand
alors,
même.
Alors, c'est pas à l'origine, c'est un livre, hein, qui a été adapté.
Ah non, 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 le film est sorti en 42.
Non, mais le
oui, je vais en parler plus tard.
D'accord.
Puis, il y a eu Bambi et le Grand Prince de la Forêt en 2006, toujours en animation et toujours Disney. Et enfin, Bambi 3, il y a quelques années. Et puis voilà donc désormais Bambi en chair et en os. Il s'agit, oui, d'un véritable film avec un vrai faon et de vrais animaux de la forêt. L'histoire, à l'origine, donc, je le dis maintenant, est un livre de Félix Salten sorti en 1923. Pas du tout américain, Félix Salten, il est né en Hongrie. Elle nous est contée par une chanteuse populaire, Mylène Farmer, dont on reconnaît d'ailleurs à peine la voix, parce qu'elle n'a pas du tout la même voix quand elle chante. Le film a été tourné dans un parc animalier dans le Loiret. Ce que j'en ai tiré, eh bien, c'est la qualité des images, paysages et animaux filmés au plus près. Eh bien, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce film. Allez-y en famille, n'hésitez pas.
Bambi, l'histoire d'une vie dans les bois, proposée par le Colisée et les cinéastes. Voilà.
Oui.
Voilà. Alors, Croquette le chat merveilleux, cette fois-ci, c'est proposé par le méga CGR, le Pâté Quinconce. Et le Colisée, je vous dis juste le synopsis, ça dure 1h27, c'est un film d'animation. C'est bien connu, les chants ont plusieurs vies. Croquette vient de gâcher celle de trop et il ferait tout pour retrouver Rose, sa maîtresse adorée. On lui accorde une dernière chance, cependant une règle a changé. Croquette peut revenir, mais à un détail près. Désormais, transformée en cheval, chien, perroquet ou poisson, l'aventure ne fait que commencer. Donc, film d'animation, 1h27, proposé par le méga CGR, le Pâté Quinconce et le Colisée. Autre film d'animation, Sauvage. Cette fois-ci, Sauvage est proposé par le cinéma Les Cinéastes. Là aussi, certainement à partir de dimanche tous les jours, mais pas de séance jeudi, vendredi, samedi, à partir de dimanche, donc Sauvage, présenté dans le cadre du festival Graines d'Images d'Union, dont Pierre va vous parler dans un petit moment. Sauvage, donc, je vous fais le synopsis, à Bornéo, en bordure de la forêt tropicale, Keria recueille un bébé orang-outan trouvé dans la plantation de palmiers à huile où travaille son père. Au même moment, Selai, son jeune cousin, vient trouver refuge chez eux pour échapper au conflit qui oppose sa famille nomade aux compagnies forestières. Ensemble, Keria, Selai et le bébé singe baptisé Oshi vont braver tous les obstacles pour lutter contre la destruction de la forêt ancestrale, plus que jamais menacée. Donc Sauvage, film d'animation proposé par le cinéma Les Cinéastes. Encore dans les films d'animation proposés, je crois, par Les Cinéastes, MacPat le chat chanteur. MacPat le chat chanteur. Alors, cette fois-ci, je ne sais pas s'il est proposé au cinéaste d'ailleurs. Il est proposé quelque part, mais je ne sais plus où. Là aussi, c'est un film d'animation de 40 minutes. C'est un programme de 4 courts-métrages. Voilà, alors Pierre, maintenant, c'est à toi de t'exprimer sur Graines d'Images Junior, car ça commence samedi ou dimanche.
Oui, c'est ça, oui. Alors, je citais juste les films parce qu'il y en a beaucoup et on a peu de temps. Alors, Pat et Matt, un dernier tour de vis dès 2-3 ans. MacPat le chat chanteur,
ben voilà, donc
dès
voilà.
3 ans. Petit conte sous l'océan dès 3 ans aussi. Chouette, un jeu d'enfant dès 4 ans. Mon petit Halloween dès 5 ans. Maya, donne-moi un titre dès 5 ans. Ciné-concert Cosmoparty dès 6 ans. Alors là, il n'y a qu'une séance samedi 19 à 14h30, donc c'est demain. Olafrida, une avant-première dès 6 ans, dimanche 27. Bambi, l'histoire d'une vie dans les bois. Sauvage, alors dès 6 ans pour ce film, Sauvage dès 6 ans aussi, Flo, une avant-première dès 7-8 ans, Slocum et moi, avant-première dès 8 ans, Anzu, chat fantôme dès 9-10 ans, La vie en gros en avant-première dès 10 ans, et enfin Cœur perdu dès 11 ans.
Alors Graines d'Images Junior s'est proposé au Mans, mais il y a d'autres salles dans la Sarthe qui proposent ce festival.
Hein. Absolument, alors je voudrais quand même citer le pâté, hein, c'est normal, parce qu'il propose aussi pas mal de films pour les vacances. Alors, Croquette le chat merveilleux, film canadien d'1h27, Le robot sauvage, USA 1h42, Billy le hamster cowboy, 1h07, Mon petit Halloween, c'est un film français, ça c'est pour le petit parce que il ne dure que 43 minutes. Vice versa, oui, il recommence à passer vice versa, film américain d'1h36, Le Château Ambulant, film japonais. Attention, ça dure 2 heures quand même. Mmh. Horaire sur Pathé Le Mans. Et tarif spécial pour les moins de 14 ans, 5 euros seulement jusqu'au 29 octobre.
Voilà, alors les films à l'avant-première, il n'y en a qu'un seul. Dimanche à 10h30 au Pathé. Transformers, le commencement, qui est aussi peut-être une avant-première pour ce film-là. Omega CGR, c'est pas impossible. Sinon, la semaine prochaine, vous aurez le choix entre Challenger. C'est une comédie avec Alban Ivanov, je l'ai vu. C'est une sorte de Rocky en forme de comédie.
Oui.
Ça vaut surtout pour l'abattage d'Alban Ivanov.
Oui, j'aime beaucoup. Oui.
Monsieur Aznavour, là aussi je l'ai vu, ça c'est à voir absolument. Oui. Tahar Rahim est absolument phénoménal. C'est un biopic consacré à Charles Aznavour, bien entendu. Transformers, donc le commencement, ça c'est un film d'animation. Ni Pierre, ni moi, n'iront le voir.
Oh là. Non.
Ça serait même pas en animation, on n'irait pas le voir. The Killer de John Woo. Alors, c'est un remake fait par John Woo de son propre film. Moi, j'avais vu le Killer, ça m'avait marqué complètement. Je me rappelle même que je l'ai vu au cinéma le français, c'est vous dire si ça m'avait marqué. Là, je ne sais pas ce que ça va donner, ce Killer avec Omar Sy, Sam Worthington. Les cinéastes proposeront 3 km jusqu'à la fin du monde, un film roumain. Il y aura également dans les dessins animés, à cause des vacances, Angelo dans la forêt mystérieuse. Et puis, il y aura 4-0 de Fabien Antoniente, une comédie. Ouais, on ira le voir, mais avec quelques réticences au départ.
Parce fait mon choix.
La bonne annonce n'a pas l'air d'être top. Mais c'est M. Aznavour qu'il faut aller voir la semaine
oui,
prochaine.
Oui, absolument. Et je veux voir Alban Ivanov aussi.
Absolument. Oui. Eh bien, nous, cette semaine, on vous recommande L'Amour Ouf. Pierre.
Alors, pour la famille, j'ai beaucoup aimé Bambi. Moi, c'est joli.
Bon, et ben donc ça fait quand même déjà 2 choses. Ah oui, les amateurs de films d'horreur, Smile 2, oui.
Ah ça, oui, oui, c'est sûr, interdit c'est au moins de 16, on faut le rappeler.
Ah hein. oui, absolument. Allez, sur ces bonnes paroles, on vous souhaite une excellente semaine cinématographique. On dit bonnes vacances aux scolaires.
Bah oui.
Et nous, on se retrouve sur Radio Alpa, 5.3 FM, la semaine prochaine.
Oui, au revoir.